We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Et bonjour, bienvenue dans Un livre, un film pour un livre. Un film. Les deux, cette fois-ci, ont le même titre. C'est Le Consentement, si vous voulez bien. C'est Le Consentement, évidemment, de Vanessa Springora et celui, Le Consentement, de une autre Vanessa, Vanessa Filio. Le Consentement de Vanessa Springora est paru en 2020 aux éditions Grasset et Fasquel. C'est un récit. C'est un témoignage et c'est peut-être encore plus, nous aurons l'occasion de le voir, une thérapie, une sanction infligée à un criminel et une leçon donnée à la société tout entière. Beaucoup pour un seul livre, me direz-vous, mais c'est un bon livre, un livre extrêmement bien fait. C'est écrit par une dame, Vanessa Springora, qui travaille dans l'édition et qui... On le sent, c'est ce que c'est qu'un bon livre et maintenant c'est en faire puisque c'est son premier et qu'il a eu un assez vif succès autant dans le public que pour la critique. Il a obtenu le grand prix des lectrices de Elle, catégorie document. Un document, c'en est un, qui a été porté à l'écran cette année. Il est sorti, je crois, mois d'octobre 2023, Le Consentement de Vanessa Filio, un film... Alors, pour un livre, un film, on a l'habitude, effectivement, de tenter de caractériser les adaptations. Je crois que le mot qui conviendrait cette fois, c'est fidélité, dans la mesure où, à la vision du film, on se retrouve en terrain connu. On se retrouve un peu comme au milieu du livre, sauf que c'est un film, c'est-à-dire qu'il y a des images et que ça parle tout à fait directement, autrement, à l'esprit du spectateur que ça n'avait fait à l'esprit du lecteur. Haute fidélité donc pour cette adaptation au cinéma par Vanessa Filio du livre de Vanessa Springora à deux... détails près, je ne suis même pas sûr que ce soit des détails, mais enfin, le père de Vanessa Springora, assez présent par son absence dans le livre, agissant par son absence même dans le livre, disparaît totalement de l'écran, on l'oublie, peut-être que c'est un manque, car finalement cette absence a eu un effet, c'était peut-être dommage de l'effacer totalement. Ce n'est pas véritablement important. Autre détail, la fameuse, on en parlera, émission de Bernard Pivot. On en a un petit exemplaire, apostrophe, du 2 mars 1990, émission au cours de laquelle, évidemment, Gabriel Mazneff, nous allons en parler, était invité avec Denise Bombardier. Cette émission que le film nous présente comme ayant été vue en direct, par Vanessa Springora, ne l'a pas été en fait. C'est une émission qu'elle a découvert un peu plus tard. Un détail intéressant, d'ailleurs, la cinéaste Vanessa Filio a une petite cheville maligne dans la mesure où la voix de Gabriel Mazneff dans l'émission va être prise par Jean-Paul Rouve, dans le film, ça crée un effet de réel tout à fait particulier, ou d'ailleurs d'irréel, on ne sait plus bien où l'on se trouve. Je parle, mais venons-en aux faits, puisque récit, il y a de quoi. Le 6 novembre 1985, la maman de Vanessa Springora décide d'emmener sa fille à un repas soirée mondain. Repas, soirée, auquel se trouve Gabriel Mazneff, qui est à l'époque une petite gloire du milieu littéraire parisien. Nous parlions de l'émission Apostrophe. Il a été invité 6 fois dans cette émission culte. C'est dire que ce monsieur avait ses entrées à peu près partout dans le petit monde de l'édition, du journalisme, de la critique, où il proposait aux chalands sa littérature d'assez mauvaise qualité du reste. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard également. À l'issue de cette soirée, la maman impose littéralement à Vanessa Springora de raccompagner en voiture Gabriel Matzneff, qui n'habite pas loin de chez elles deux, qui vivent ensemble autant qu'elles peuvent, du mieux qu'elles peuvent. Elle raccompagne donc Gabriel Matzneff, et à l'arrière de la voiture, Gabriel Matzneff se trouve assis à côté de Vanessa, la petite Vanessa. Gabriel Matzneff a 49 ans, Vanessa en a 13, c'est une collégienne, et ce monsieur entame une relation intime qui sera consommée l'année suivante, à l'âge de 14 ans pour Vanessa. Ils vivront ensuite quasiment en couple dans une chambre d'hôtel payée par l'éditeur du monsieur. Et puis, eh bien, ils vivront, oui, quasiment en couple, dans la mesure où Gabriel Matzneff n'hésitera pas à exhiber sa très, très, très jeune compagne un petit peu partout où il se déplace, restaurant, cinéma, salle de spectacle, etc., etc. Évidemment, ça fait un petit peu froid dans le dos, et c'est d'autant plus glaçant que dans le livre, la chose est démontée, je l'ai dit en introduction, avec une grande maîtrise du récit et également du style, et le film est à l'image du texte, c'est-à-dire très bien réalisé, très bien monté, et surtout, je ne sais pas, mais aussi très bien joué. C'est Kim Higelin qui s'attaque au rôle difficile de Vanessa Springora. Elle s'en tire superbement bien. Kim Higelin est la petite fille du grand Jacques Higelin, la fille de Ken Higelin. C'est une enfant artiste d'une famille d'artistes et elle en fait la démonstration. C'est Laetitia Casta qui se charge du rôle de la maman. C'est Élodie Bouchèze qui magnifiquement va servir le personnage de Vanessa Springora adulte. Et c'est Jean-Paul Rouve, à peu près du même âge que Matzneff à l'époque, qui se charge de jouer Gabriel Matzneff. Et là, disons-le, c'est juste glaçant. Certaines scènes sont assez difficiles. J'aime autant le dire aux personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ou aucune raison spécifique d'ailleurs, serait un peu sensible. Ça a parfois du mal à passer parce que justement, c'est extraordinairement bien joué. Nous allons ensuite développer un petit peu cette affaire après nous être détendus avec de la bossa nova.
Mesmo um homem que diz vou,
não vá,
porque quando foi já
não quis.
O homem que diz sou,
não é,
porque quem é mesmo é,
não sou.
Xangô me mandou lhe dizer: canto de Ossanha, não vá que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom se doer. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.
Merci, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Bossa Nova Pula, on peut le dire, avec Vinicius de Moraes aux paroles et au chant, avec Toquinho à la guitare, il joue du Baden Powell, et l'autre voix, c'est celle de Maria Creuza, c'était En la Fusa en 1970 en Argentine. Encore une fois, vous ne trouverez pas facilement un casting aussi bon. Voilà. Quoique dans ma discothèque, je dois bien avoir quelques petites pépites que je vous partagerai lors de prochaines émissions. Pour l'instant, consentement. C'est le consentement de Vanessa Springora et celui de Vanessa Filio, l'un à l'écrit, l'autre en image. Je crois que ce récit de Vanessa Springora est l'histoire d'une prise de conscience, une prise de conscience personnelle, déjà, de Vanessa Springora, qui, on peut le dire, agressée dès l'âge de 13 ans par Gabriel Matzneff, séduite par lui, comme il avait séduit évidemment énormément de monde par ailleurs, et aussi des enfants naturellement, je crois qu'il a fallu un temps pour tout le monde et en premier lieu pour Vanessa, un temps pour prendre conscience de ce qui s'était réellement passé. Ce monsieur qui a 36 ans de plus que moi m'a non seulement dragué, séduite, mais possédé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que même il y a une difficulté à prendre conscience des faits eux-mêmes, les visualiser, je pense, mentalement, et puis ensuite de leur donner un sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis de les faire tomber sous un jugement moral. Qu'est-ce que ça vaut moralement une aventure comme celle-là? Et cette histoire de prise de conscience qui a dû se commencer dans l'esprit, dans l'âme même de Vanessa Springora, se poursuit dans l'écriture du roman. Elle écrit très bien, c'est-à-dire elle offre un produit manufacturé sophistiqué, à travers lequel, comme à travers une lentille, un œilleton, à travers lequel elle va revoir les événements, revoir ce qui s'est passé et, qui plus est, l'offrir au public. Le livre va être énormément lu, je n'ai pas en tête le nombre d'exemplaires, mais c'est colossal. Ce livre va être lu et par conséquent, on va avoir droit à une prise de conscience sociale, sans dire que le livre est un phénomène social à part entière, un peu. Et donc, prise de conscience de la société, que ça a pu se faire, que ça se faisait, ce genre de choses. Prise de conscience, un peu, de la part de la petite coterie parisienne des éditeurs, des journalistes et des critiques, qui sont bien obligés, quelque part, de se rendre à l'évidence et qui se retrouvent un tout petit peu le nez dans leur caca. Et puis, donc, la prise de conscience se poursuit, cette année où nous parlons, en 2023, avec la sortie sur les écrans du film de Vanessa Filio. Et là, effectivement, la prise de conscience prend un degré supplémentaire, puisque nous voyons les choses, nous-mêmes, extrêmement bien jouées, de manière, je le répète, réaliste et par conséquent choquante, si bien que la prise de conscience est authentique, profonde, limite violente, et que par conséquent, le travail de prise de conscience se poursuit pour le plus grand bien, je crois, d'une certaine manière, et de nous individuellement, chacun d'entre nous individuellement, et pour le plus grand bien, peut-être, de la société tout entière, en particulier dans cette petite niche de la culture qui ressemble à s'y méprendre à la petite niche de la politique et d'une certaine manière aussi à la petite niche du sport business, du sport médiatique, du sport de compétition sous les feux de la rampe, n'est-ce pas ? D'une certaine manière, on retrouve les mêmes schémas de prise de pouvoir, de harcèlement, etc., dont on a commencé à parler ces dernières années, en particulier à travers le mouvement MeToo, ça va de soi. Il y a encore beaucoup de travail dans d'autres secteurs, à d'autres niveaux des mœurs et de la vie sociale, à n'en pas douter. Et le livre et le film dont je parle aujourd'hui en sont peut-être la preuve. La preuve qu'il faille peut-être prendre conscience de l'existence de déviances criminelles du point de vue de la sexualité, et cette déviance criminelle tourne toute autour de la notion de consentement, justement. À quel moment, à quel titre, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une relation est consentie, qu'une adhésion est consentie, qu'une séduction est acceptée et consentie par quelqu'un. C'est un petit peu difficile. La loi, de ce point de vue-là, est assez claire. Il n'y a de relations sexuelles tolérées qu'entre adultes consentants. Voilà, ça c'est la loi, c'est assez clair. Mais que veut dire consentant ? Adulte consentant, on a un petit peu l'impression d'entendre un pléonasme, une tautologie, dans la mesure où est un adulte justement celui qui est capable de consentir, c'est-à-dire de se diriger dans la vie par son propre moyen, avec ses propres moyens de jugement et d'action. Donc un adulte, c'est justement celui qui peut consentir. Et qu'est-ce que le consentement, sinon ce qui définit justement l'adulte ? C'est-à-dire que l'adulte va être défini par cette liberté, cette responsabilité qu'il a dans ses représentations et dans son action. C'est la capacité à consentir réellement qui va faire d'une personne, précisément, un adulte. Donc, on tourne un petit peu dans un petit cercle avec cette notion de consentement et d'adulte consentant. Et c'est ce que Vanessa Springora dans son livre et Vanessa Filio dans son film font bien sentir, c'est que nous naviguons ici en eau trouble. Car finalement, des enfants jusqu'à un âge avancé et à partir d'un âge assez précoce, se livrent entre eux à des petits jeux sexuels qui peuvent choquer, bon, qui ça voudra choquer, mais on s'en moque puisqu'ils sont entre enfants. Mais quand un adulte se penche sur un enfant, que vaut le consentement de l'enfant ? Qu'est-ce que le consentement de l'enfant ? À quoi voit-on qu'il y a un authentique consentement de la part de l'enfant ? Voilà tout le problème. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il semble assez intéressant que le législateur ait prévu le truc et dise que, bon, entre adultes consentants, d'accord, et on va dire à partir de 15 ans. Comme ça, si vous voulez, on peut toujours discuter de l'âge auquel on peut consentir authentiquement, peut-être plus tôt, peut-être seulement plus tard pour certaines personnes, allez savoir. Personnellement, je ne suis pas juge, mais le législateur non plus, d'ailleurs, n'est pas juge, mais le législateur est législateur, et par conséquent, il légifère et dit, c'est 15 ans. Ça permet de... Je crois que quand elle n'est pas manifestement à l'encontre des droits les humains les plus élémentaires, mais une loi, elle est quand même faite, grosso modo, pour être respectée. Et par conséquent, au lieu de se poser des questions de savoir si la petite Vanessa était consentante ou pas à l'égard de Gabriel Masneff, il suffisait de regarder les cartes d'identité, peut-être, ou l'état civil, et de dire « Mais Vanessa Springora, elle a 13 ans, monsieur Masneff, et vous en avez 49, voyez pas un problème ?» Et quand vous allez vous promener en Extrême-Orient et que vous rencontrez des jeunes garçons encore plus jeunes, vous vous posez aussi la question de leur consentement, ou bien est-ce qu'on pourrait pas, là aussi, se fier aux états civils et décider que vous êtes un pédocriminel, tout simplement, et que pour ça, vous pouvez prendre de la tôle ferme. C'est clair. Je sais pas. Moi, je vois parfois les gens se perdre dans des considérations tout à fait obscures. Mais je dois manquer de quelques points de QI, probablement. si, ça doit être ça. Bon. Sylvain, qui réalise toutes mes émissions de radio, se marre quand je parle de manque de petits points de QI. Bah oui, parce qu'il sait que c'est le cas et que je suis un peu ici par la grâce des aides étatiques pour les gens en difficulté. Voilà. Bon. Alors, toutefois, l'impunité de Masneff pose quand même un petit peu problème et je me suis creusé. Avec l'intelligence qui est la mienne, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a sur ce qui a rendu possible une telle affaire, dans la mesure où, en 1985, personnellement, je suis en classe préparatoire aux grandes écoles, comme quoi tout est possible aux nains intellectuels, et je fais donc de la littérature, et j'ai des professeurs merveilleux, Monsieur Dietsch, par exemple, qui nous enseigne la littérature et qui nous démontre, avec une craie dans une main, un bouquin dans une autre, et puis un tableau noir, il nous démontre que la littérature de Masneff, c'est pas bon. Et nous, jeunes élèves d'à peine 20 ans, nous le comprenons. Et quand nous regardons les livres de Masneff dans les librairies, nous trouvons ça mauvais, effectivement, et nous ne les achetons pas. Et mes petites camarades qui sont avec moi, pour faire les mêmes études que moi, il ne leur serait vraisemblablement pas venu à l'idée de succomber au charme de Monsieur Masneff. Il y a donc un problème qu'il faut expliquer. Et j'ai l'explication. Dans ces années-là, la contre-culture a pris le pouvoir. C'est-à-dire que tous les gens célèbres des années 70, les 68ards aujourd'hui, séniles ou grands prématurés, c'est selon, étaient à l'époque ces libertaires, libertins, qui avaient lutté contre la bourgeoisie. Ben, dans les années 80, 90, ils sont au pouvoir, eux. C'est-à-dire que leurs idéaux de liberté sexuelle, par exemple, mais également esthétique, philosophique, littéraire, etc., leur credo libertaire libertin était au pouvoir. Vous avez ce paradoxe tout à fait extraordinaire de libertaire autocrate et de libertin tyran. C'est assez terrible. Et quand on voit monsieur Bernard Pivot, en bon pépère comme ça, recevoir monsieur Masneff et le faire causer de ses petites aventures pédocriminelles, on en est quand même un tout petit peu baba. Aujourd'hui, à l'époque, ça passait, mais je tiens à le souligner, ça ne passait pas partout. Et le 2 mars 1990, Denise Bombardier, l'autrice canadienne, est présente sur le plateau de Bernard Pivot en même temps que Masneff, et elle lui dit qu'il devrait être en prison, ou à peu près. Et la critique littéraire de l'époque, Josiane Savigno, au Monde, pour ne pas la nommer, qualifie quand même Denise Bombardier de mal baisée. Allez savoir, tout est possible. Alors, non, il y a donc un réel problème, et effectivement, je crois qu'il est là. La contre-culture est au pouvoir, et il est interdit d'interdire, est au pouvoir. Et effectivement, l'application de la loi contre les relations pédophiles, on s'en occupe pas beaucoup. Voilà. Cela méritait d'être dit. J'espère que vous y aurez consenti en toute liberté. Je vous retrouve dans quelques temps pour un nouveau livre et un nouveau film. Ciao, ciao.
We get it almost every night.